ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
C'est le Pit Stop, Denis Gravel qui est en place, Pascal CV qui est là pour nous accompagner. On va être là jusqu'à quoi? 12h30 avec le Pit Stop. Plein de sujets à jaser avec vous autres. D'ici là, si ça vous tente de participer à la conversation, c'est le 418-971-1021 par texto ou encore les gens qui veulent aller sur l'application Twitch. Vous allez avoir la chance de voir Pascal CV chialer. Mais avec une image visuelle.
Ben voyons, c'est quoi ça? J'aimerais ça savoir justement c'est quoi mon rôle dans le Pit Stop. Est-ce que c'est le rôle de toujours là pour ramasser votre intimidation ou encore en appui pour, je sais pas moi, faire rire le monde? C'est très, la ligne est fine entre les deux.
C'est peut-être, c'est juste qu'aujourd'hui, on a tout dit ce qu'on avait à dire sur la situation entre le Canada et les États-Unis hier.
Oui.
Puis là, il faut comme en parler encore.
C'est
Mais on n'a pas le choix en même temps.
Oui, puis by the way, les auditeurs qui ont engagé 2$ avec moi hier, comme quoi on allait avoir les tarifs, et moi, je vous ai dit que c'était encore du maudit bluff du gros orange l'autre bord. J'attends votre 2$ à la station.
C'est-tu un virement Interac que tu souhaites?
Non, ça me prend un 2$ en métal. Ils viennent me le porter ici à la station, puis ils me disent, ils me regardent dans les yeux quand ils me le donnent.
Sérieux?
Pardon, mon oncle.
Ah non, le gros orange qui a fait trembler le Mexique, qui a fait trembler le Canada. On en parlait il y a de ça quelques jours, nous trois. Il y a quelque chose de positif à retirer de tout ça, c'est qu'on va commencer à s'organiser nous autres mêmes, parce que les États-Unis sont bien organisés. Nous autres, entre provinces, faut en faire du troc. Faut s'échanger des choses, faut en importer, faut en exporter. C'est tellement compliqué, ça n'a pas de bon sens. On est un seul pays, puis on a l'impression qu'il y a des frontières en chaque province.
Écoute, faut plus jamais que le pays se retrouve dans cette situation-là. Cette situation-là de faiblesse extrême, de dépendance extrême à un seul client, à un seul fournisseur. Puis il y a un paquet de facteurs qui rentrent là-dedans. La façon dont Justin Trudeau a étiré son mandat, moi, ça fait partie des choses que j'ai encore dans la gorge. Oui. J'aimerais qu'on empêche des premiers ministres d'agir comme ça.
Surtout dans une situation critique où le Parlement est paralysé pendant des semaines et des semaines dans l'attente d'un futur chef du Parti libéral du Canada.
Je dis pas qu'il a fait un mauvais travail dans la dernière ou les dernières semaines, mais ça fait partie des facteurs, l'étirement de ce mandat-là qui a placé le Canada dans la position où il est. T'as parlé du commerce entre provinces, je pense que là-dessus tout le monde s'entend. La diversification des clients. En fait, je regardais où est-ce qu'on exporte réellement le fentanyl au Canada, puis il faudrait peut-être copier le modèle d'affaires des criminels, parce que le fentanyl, on ne l'exporte pas aux États-Unis, hein, on l'exporte au Venezuela et ailleurs dans le monde. Quoi que Trump en dise, il faut peut-être copier le modèle d'affaires à toutes nos entreprises, je ne sais pas.
Quelques laboratoires qui ont été démantelés. On a demandé à ce que les cartels mexicains soient vus comme des terroristes maintenant au Canada, ce qui fait en sorte que les États-Unis vont aider tant le Mexique que le Canada à se débarrasser de ses aliens.
Mais c'est toutes des choses qu'on aurait pu négocier sans passer par la menace des tarifs puis l'espèce de psychose de guerre économique qu'on a connue dans la dernière semaine, je pense.
Est-ce qu'on doit dépendre constamment des États-Unis? T'sais, la réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut diversifier nos exportations et nos importations ailleurs qu'aux États-Unis pour que, justement, lui ou le prochain ait pu une si grande mainmise sur nos décisions à nous autres.
Mais faut se parler. Moi, j'ai le goût de vous demander, les gars, c'est quoi les solutions pour garder cet engouement-là? Parce que moi, j'ai l'impression que ça va faire comme en pandémie, laver son épicerie, sa tenue de 2-3 semaines, sans plus. Là, je sais pas qu'il faut ramener ça. Sauf que...
Saluer les gens qui ont tenu leur boycott 24 heures. Bon courage.
Ils sont réinscrits à Netflix hier soir.
Oui, hier soir, c'était correct.
Je veux pas rire parce que c'est quand même des gens qui ont pris action pour essayer de mettre la main à la pâte comme ils pouvaient, s'ils n'ont pas d'entreprise, s'ils n'ont pas de courant de navigation entrepreneuriale. Comment est-ce qu'on va faire pour garder ce sentiment-là, cette envie-là, autant pour les citoyens que les provinces et les entrepreneurs?
Puis la question de fond, est-ce que c'est possible de ne pas être dépendant d'un voisin aussi gros et aussi fort? On peut essayer, puis j'imagine qu'on va essayer politiquement, économiquement dans les prochaines années, mais on reste avec le même voisin qui a la même influence sur le reste de la planète. Les autres pays sont pas mal plus loin, c'est pas nos voisins. On peut améliorer notre commerce intérieur, ça je suis convaincu de ça, mais est-ce qu'on peut diminuer tant que ça l'influence que les États-Unis ont sur notre pays? L'expérience va être intéressante.
Je ne sais pas si tu as lu le Journal de Québec aujourd'hui. J'imagine que tu as lu quelques articles, bien entendu. Il y a un article qui parle de consommation. On se pose la question, ces produits sont-ils vraiment canadiens? T'as-tu vu la photo qu'ils ont prise?
Non.
Regarde ça, man. Le monsieur a genre 75 ans. Il regarde des bananes. Derrière lui, il y a des bananes puis des ananas.
Ouais.
Puis la question, c'est ces produits sont-ils vraiment canadiens?
Je pense pas. Oups.
Quand tu lis l'article, mais quand tu lis l'article, c'est correct parce que là, on parle vraiment de produits qu'on importe.
Oui, mais
au
regarde,
Canada.
T'en parles.
Pauvre vieux monsieur, il est d'un banane.
Mais moi, ça, c'est mon père, là.
Oui.
Moi, je fais ce journaliste.
Oh.
Mais non, tu peux pas faire ça à mon père.
Demande poliment des excuses.
Oh. Tu l'as vu?
Il a peut-être été payé, je sais pas.
Non, il a pas été payé. il regarde les bananes.
Non, puis... mais il fouillait dans les sacs d'épicerie aussi hier. Hey, sérieux, tu sais, je veux dire,
mais si on voulait mettre en image la confusion, là, je pense qu'on a créé une œuvre d'art.
Peut-être qu'il faudrait... Ouais, attends, quelle confusion.
C'est canadien, ces bananes-là, là, je suis tout mêlé. Mon nom!
Avec les ananas en arrière. Non, je vous dis, allez voir ça sur le site Journal de Québec. Là,
on est de mauvaise foi.
Non, excuse-moi, on est de très bonne foi parce que j'ai spécifié.
Tu le défends, je sais.
Quand
mais...
tu cliques sur l'article, les produits qui sont à l'intérieur sont corrects. Mais le monsieur.
Mais ça me fait le cœur, ce pauvre homme.
Je suis pas sûr s'il y a un beau-frère, mais s'il y en a un, c'est clair qu'il l'écœure avec ça au party de Noël.
Écoute! Lui,
il
s'est fait dire que Beau Dommage chantait Montréal. Fait que tous les palmiers, tous les bananiers, c'est dit, c'est dans le coin de Montréal. Ça doit être sur le Mont-Royal.
Ah non, c'est lui.
Faut que tu es peut-être encore dans l'épicerie, là, qui sait.
Oui. Passe la nuit, là, en avant des bananes.
Mais bref, Trump, sans que ça lui coûte une scène de plus, a quand même réussi à renforcer. Je pense que le mot est c'est important de mettre entre guillemets renforcer parce que ça coûte de l'argent pour la sécurité des États-Unis, bien entendu. Il a quand même réussi à renforcer les frontières entre le Mexique et le Canada, et ça y a pas coûté une scène, tandis que de notre côté, ça va être 1 milliard, puis de l'autre bord au Mexique, ça va ressembler à ça aussi.
Écoute, c'est un tour de force. Il a augmenté son influence, puis probablement que ça aurait pas toffé longtemps si on se serait lancé dans une guerre tarifaire. Fait que si c'était ça son plan, ça fonctionne à merveille, puis il y a des choses qui mentent pas, Yann. Le copier-coller du communiqué du Canada et du communiqué du Mexique, avec des mots qui ne nous appartiennent pas. Penses-tu que Justin Trudeau s'est dit « Je vais inventer le poste de tsar du fentanyl
ouais, » J'aime ça, moi.
Qui utilise le mot « tsar »
Les Américains, honnêtement.
C'est les Russes.
C'est les Russes et Donald Trump.
Non, mais les Américains ont déjà nommé un tsar. Pour eux, là, c'est pas la même définition que nous, parce que moi, j'ai tellement ri hier, j'en ai pleuré, j'en ai eu mal au ventre. J'ai relu 3-4 fois la phrase. Je me suis dit « Il faut qu'il y ait une explication. »
Mais ça montre que le Canada n'a pas écrit
C'est pas la même
le
définition
communiqué.
Franco-anglo. T'sais. Là, c'est eux, c'est un haut lieutenant et tout, mais t'arrives pas en... Justin Trudeau qui parle en français d'un tsar.
Mais là, vous nous écoutez, vous êtes sur l'heure du midi, là. Je veux que vous arriviez à job cet après-midi pour demander un poste de czar.
Pourquoi tu dis czar? C'est la façon de le dire?
Czar.
Ou c'est juste un poste de czar. Plus pédant?
Je sais pas, mais Justin Trudeau quitte le poste de premier ministre, puis lui, se voyait déjà se déguiser en tsar impérial russe.
À la frontière, le tsar du fentanyl.
Voilà, c'est juste incroyable ce qui se passe. Puis de voir que ça gonfle encore son égo, il a fait trembler tout le monde. Là, c'est les Chinois qui sont un peu moins contents parce qu'ils ont la fameuse surtaxe de 10 %. Mais pour ce qui est du Mexique et du Canada, on a vraiment eu peur pour des jobs. Là.
Ah oui, puis de la façon que ça a été orchestré, parce que je pense qu'on le saura jamais, là. Si c'était un bluff habile puis qu'il savait qu'il n'y avait pas tant de marge de manœuvre que ça, mais que c'était ça qu'il voulait avoir comme impact puis qu'il se disait « En l'espace de 24 heures, je vais faire plier au nord et au sud », c'est pas une forme de politique que j'aime ou que je respecte beaucoup, mais on va être obligé d'y donner. Il a gagné sur toute la ligne. Si on s'était retrouvé, Yann, en guerre tarifaire pendant 2 semaines, je suis pas sûr qu'il gagne aussi haut la main, même s'il réussit à avoir, mettons, la même entente avec les mêmes déclarations.
Il n'y a rien de bouclé, il n'y a rien d'impossible encore. Il faut pas parler, il faut pas crier victoire
mais,
tout de suite.
Ben oui, parce que ça passera pas. J'entendais Farnell ce matin parler du Sénat puis du Congrès, là, mais en même temps, il est républicain. Fait que, ça servira à rien, mais l'Organisation mondiale du commerce, c'est sûr qu'il n'aurait pas laissé passer ça. C'est clair qu'il n'aurait pas laissé passer ça. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que Trump peut, il peut gonfler son ego, mais il ne peut pas continuer à nous menacer de nous surtaxer constamment.
Constamment bullshiter, là, comme il a fait, finalement. Là. Puis, tu sais, en fait, il a pris une chance, il ne pourra pas le faire. Personne ne va y croire par la suite. Il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il manipule son information comme il aime la manipuler, mais il faut que ça soit efficient. Par contre, là où je pense que ce n'est pas sûr que c'est terminé, c'est qu'il va trouver une autre raison. Il veut tellement changer de choses, mettre ça à sa main, qu'il va trouver une autre raison pour laquelle ramener ces tarifs-là, je crois.
Il dit aux Américains, le Canada est dur, sont pas gentils, on n'a pas de banque américaine au Canada, alors qu'on en a 19 banques américaines au Canada. C'est quelqu'un qui ne se gêne pas de mentir pour pouvoir faire gonfler son ego, pour gonfler son image, mais n'en demeure pas moins qu'il a réussi à avoir ce qu'il voulait.
Puis étant donné qu'on n'est pas entré en guerre tarifaire, ben il y a plein de choses qu'il a dit qu'on ne peut pas vérifier. Donc, les partisans de Trump vont prendre ça comme étant une vérité. Tu sais, quand Trump dit « on n'a pas besoin de rien du Canada », c'est-tu vrai, ça? Non, il n'y aura pas d'impact aux États-Unis de cette guerre tarifaire. C'est-tu vrai, ça?
C'est faux.
Ouais, c'est faux. Moi, je pense que c'est complètement...
Sur Fox et CNN, là, tout le monde était contre Trump. Là.
En l'espace de quelques jours ou de quelques semaines, aux États-Unis, on aurait vécu les impacts négatifs. Mais là, c'est resté un bluff. Il a gagné. Il a eu ses déclarations au Canada et au Mexique. Et les détracteurs et les sceptiques ne peuvent pas vérifier la véracité de ces informations. Fait qu'on se retrouve encore dans le fameux « croit ou meurt », ce qui est toujours ça avec Donald Trump. Là. Les gens qui trippent dessus gobent tout ce qu'il dit et les autres, ils tombent dans l'âme puis ils l'haïssent encore plus. Mais la situation fait en sorte qu'on n'est pas en état de rien vérifier. La guerre n'a pas eu lieu et il a gagné cette guerre-là parce qu'au Canada et au Mexique, on a plié les genoux.
Denis Gravel, je vais faire appel à ton calme intérieur. Parce que je vais te parler d'un sujet, puis je te connais un peu, ça se peut que tu sortes un peu de tes gants, mais je vais commencer très soft en te parlant du papier que j'ai lu ce matin, que je trouvais intéressant. On parlait des fameux employés québécois qui ont été sacrés dehors par Amazon, qui ont été rencontrés par Radio-Canada, puis pour la plupart, ils ne décolèrent pas le fait qu'Amazon décide de quitter. Donc, plusieurs entrepôts de l'entreprise américaine qui s'apprêtent à fermer. Eux, ils demandent non seulement une meilleure compensation, mais aussi qu'Ottawa et Québec, tout comme les municipalités, coupent tous leurs liens commerciaux avec la multinationale. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent rétablir la justice pour les travailleurs lésés et leurs représentants. Son nom, c'est Félix Trudeau. Je ne sais pas s'il y a de la graine de Justin, mais il s'appelle Félix Trudeau. C'est le président des syndicats des employés d'Amazon à DXT4. Donc, moi, on m'avait rapporté que le gars était un peu weird. Le chef de ce syndicat-là chez Amazon, on m'avait rapporté qu'il était un peu weird, mais j'avais rien pour servir d'exemple. Mm. Je vais te faire entendre l'extrait. Garde tes mains sur la table. Éloigne tout ce qui est proche de tes mains. ouvre ton micro, ça va aller mieux.
Comme ça?
Oui.
J'ai juste dit en même temps, mords-toi à l'intérieur des joues, on va être servi.
J'ai pris de l'avance. J'ai pris de l'avance. Fais-le entendre aux auditeurs, mais moi, je l'ai écouté une couple de fois dans le bureau pour pouvoir sortir de la vapeur. on apprend avec le temps. Hein.
Montez le son dans votre véhicule. Là. Ça, c'est le président du syndicat des employés d'Amazon au Québec. On va essayer de vous faire entendre ça dans les prochaines secondes.
On peut pas juste accepter la défaite comme ça. On peut pas juste dire, OK, la fermeture va se passer, puis on rentre chez nous. Non. La multinationale du Calis qui a fait ça, il faut qu'elle apprenne que si elle fait ça à classe ouvrière du Québec, il y a un coût. Puis c'est pas juste le coût de le sous-traité, blablabla. Il faut que ce coût-là, ça soit très profond. Il faut que ça fasse mal. Puis il faut que les multinationales américaines comprennent que s'ils s'en viennent faire chier la classe ouvrière du Québec, ben ça va leur coûter cher en esti.
Il y a des gens qui applaudissent, là. Ils ont tous perdu leur job.
Mais on a déjà vu ça.
La crise du bacon de l'enfant roi parvenu qui nous parle de la classe ouvrière du Québec qu'il n'a jamais connue.
Jamais. Moi, Pascal...
5000 jobs se sont perdus à cause de lui puis de sa gang de clowns. Puis il parle de même.
Il
devrait se cacher en dessous d'un tapis, en dessous d'une roche, s'exiler. Il devrait avoir honte à cause de mes petites montées
parce que
de
même...
prince syndical, de tsar du graissage de pattes. Il y a 5000 jobs qui se sont perdus au Québec.
Parce que quand t'es représentant syndical, là, t'es pas supposé te faire fermer une shop, t'es supposé de justement la garder, mais avec les meilleures conditions possibles. Si on prend la définition de... Fait que c'est sûr que ce gars-là, oui... À mon sens aussi, devrait se poser de bonnes questions sur la qualité de son travail.
Les excès syndicaux du Calis, veux-tu qu'on en parle, tipit? 5000 jobs de perdus à cause de toi, la classe ouvrière du Québec. Ça te tente-tu d'aller parler à ton grand-père? Il va te conter comment est-ce que c'était travailler dans les usines dans le temps. La classe ouvrière, tu l'as jamais connue, t'es parvenu. Ça n'existe plus
pourquoi
au Québec.
Ça vient autant...
C'est terrible comment ça m'insulte.
Pourquoi ça vient, autant t'insulter?
Ces gens-là n'ont rien connu.
Je déteste l'hypocrisie. Je déteste l'hypocrisie de gens qui disent qu'ils se battent pour les ouvriers, alors que les syndicats, c'est rendu les fat cats qui boivent sa job sur l'heure du midi avec l'argent des cotisations syndicales, comme les boss de la FTQ Construction. Puis après ça, ils engagent des firmes pour savoir c'est qui le rat qui a donné de l'information aux journaux. Bois pas sa job, puis t'en auras pas de problème. Gang de fat cats.
On est loin de Michel Chartrand.
Ah, tabarnouche, come on.
On est vraiment loin.
La classe ouvrière du Québec, ça doit faire 30 fois que je l'entends depuis une heure, puis je manque m'étouffer à toutes les fois.
OK. Bon, il y a quelqu'un qui me demande, peux-tu la remettre? Montez le son.
On peut pas juste accepter la défaite comme ça. On peut pas juste dire, OK, la fermeture va se passer, puis on rentre chez nous. Non. La multinationale... du Calis qui a fait ça, il faut qu'elle apprenne que si elle fait ça à la classe ouvrière du Québec, il y a un coût. Puis c'est pas juste le coût de le sous-traité, blablabla. Il faut que ce coût-là, ça soit très profond. Il faut que ça fasse mal. Puis il faut que les multinationales américaines comprennent que s'ils s'en viennent faire chier la classe ouvrière du Québec, ben ça va leur coûter cher en esti.
Le pire, c'est qu'on a tout donné aux syndicats au Québec. Fait qu'à limite, on peut même pas en vouloir à des enfants de cette génération-là de penser que le syndicat est plus fort que tout. Et même quand la réalité s'invite au party, ben, ils sont pas capables de regarder la réalité en face puis de dire « Ah ouais, peut-être que ça marche de même au Québec, mais peut-être que dans le reste de la planète, ça marche pas de même. Puis peut-être que des petits culs enfants rois, crise de bacon comme moi, ils veulent pas trop en gérer Amazon ou Walmart ou McDo. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un s'essaye pour les bonnes cotisations syndicales, mioum mioum mioum, pour aller boire du Lagavulin 16 ans, ça a job le midi, ben peut-être que les entreprises décident de juste dire, ben regarde, nous autres, le Québec, c'est une pinotte, là.
T'es une entreprise internationale, puis tu regardes comment ça se passe, là, comment ça gère les business au Québec.
Je veux pas ce gars-là comme employé.
Tu t'entends ce gars-là, là. T'sais? Tu veux-tu vraiment aller t'établir au Québec?
Pour qui tu travailles? Pour Amazon du Calis? C'est comme ça que tu qualifies l'entreprise, que tu portes le crest? Regarde, ça va être correct, je sais pas comment. On va se passer de toi.
Puis dans sa tête, lui, il est persuadé que les entreprises internationales qui viennent s'établir ici, là, c'est une chance pour eux de venir s'établir ici.
Les jeunes, voyager, aller voir la réalité ailleurs, des fois, ça fait du bien. Ça fait mal, des fois, mais ça peut faire du bien aussi. La classe ouvrière n'existe plus au Québec. Ailleurs, elle est encore bien réelle, est encore bien présente. Il y a des combats à faire là-dessus. Il y a des injustices là-dessus. Mais essayez pas de nous faire passer pour des gens misérables. Il y a 5000 emplois de qualité qui ont été perdus au Québec à cause d'une lutte syndicale qui, tout le monde le savait, allait se ramasser dans le mur. Tout le monde savait qu'Amazon allait fermer l'entrepôt. Ils ont continué pareil. Ils ont ça sur le dos. Ils sont même pas conscients que c'est de leur faute.
Prochain sujet, Denis, on parle d'un sondage.
J'ai pas fini. C'est une joke.
J'aime beaucoup les sondages, même ceux qui vont pas dans le sens où j'aimerais que ça aille. Là, parce que moi, j'ai l'impression que j'ai quand même un bon pif. Là. Si tu me poses des questions sur des trucs qui touchent Québec, je suis capable de te dire, en toute honnêteté, vers où la population va aller.
Ben si on connaît pas notre monde, on fait pas notre job comme faux.
Sauf que ce matin, si tu m'avais posé la question, j'aurais pas eu les mêmes résultats que le sondage Chôme le soleil.
OK.
Moi, j'ai l'impression, puis il faut pas faire un genre de sondage autour de nous parce qu'on est un peu biaisé, on s'entoure des gens qui sont un peu comme nous. On a un biais aussi qui fait en sorte qu'on choisit bien ce qu'on veut choisir pour se conforter dans ce qu'on croit comme étant la vérité.
Ah, mais ça, c'est de la pauvreté intellectuelle là, et de raisonnement. Je suis vraiment désolé. Mais
tout le monde a ça. Fait que c'est pas tout le monde qui sont pauvres intellectuellement.
Je pense que c'est un réflexe humain.
Ouais, exact.
Mais je pense que de contrecarrer ce réflexe-là. C'est là où l'intelligence prend forme.
Exact. Fait qu'il faut toujours sortir un peu de son entourage pour savoir comment ça se passe. Mais ce matin, bien humblement, je me serais trompé sur les résultats attendus du sondage Somme le soleil. On a posé la question aux Québécois, Québécoises. 800. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais Yann, il n'y en a pas 1000, c'est pas valable. » Bon, 800, OK? Et on voulait savoir si les pistes cyclables déneigées, ça faisait l'affaire des gens de Québec. Si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit un bon 60-40, c'est-à-dire 60 % des gens qui disent « Bon, un peu cyclable, déneiger l'hiver, ça n'a pas de maudit bon sens. » Puis un bon 40 % qui dit « Ben, les déneiger de façon partielle. Oui. » Ça aurait été ma réponse à moi.
Mm-hmm.
Tu aurais été quoi, toi?
Je te laisse terminer, puis après ça, je vais te donner ma version des choses. Je vais utiliser une phrase que j'utilise souvent, « Le diable est dans les détails. »
Tout juste à la majorité, 52 % des répondants se disent totalement ou plutôt favorables au fait que la Ville de Québec déneige des voies cyclables de son territoire en hiver. Les opposants, dont je fais partie, parce que je trouve qu'en plein mois de janvier, plein mois de février, avec des températures de moins 15, moins 20, déneiger des pistes cyclables, ça va juste faire en sorte qu'on va travailler pour rien. Je fais partie des opposants. On est à 44 %, puis il y a un 4 % des gens qui ne se prononcent pas.
Donc, combien de pourcentage est en faveur?
Plutôt favorable, 32 %. Totalement favorable, 20 %. Donc, on est à 53 %, 52.
Est-ce que tu as la question précise sous les yeux qui a été posée aux gens qui ont répondu au sondage?
Oui, parce qu'on s'est déjà fait avoir dans le temps avec ça, hein?
Non, mais c'est parce que y a beaucoup de mots qui sont pas utilisés et il manque une question primordiale à ce sondage.
Je vois sur quoi t'as bogué. Okay. Êtes-vous favorable au fait que la Ville de Québec déneige certaines voies cyclables de son territoire en hiver?
Est-ce que « certaines » fait partie d'un mot sur lequel t'as accroché?
Bien, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est que la question n'est pas posée dans un contexte. Je vais te poser la même question, mais je vais rajouter un petit peu d'enflure verbale autour. Êtes-vous favorable ou plutôt favorable au fait que lorsque vous allez glisser avec votre char sur Laurentien parce que c'est pas déneigé et que vous allez prendre une sortie, vous allez constater que la piste cyclable est mieux déneigée que les routes? Déjà là, on est dans un contexte différent. La question est posée comme si on pose la question « Êtes-vous pour la tarte aux pommes? » Même si j'en mange pas, j'ai pas vraiment de raison d'être contre. On me demande si je suis pour qu'on déneige des pistes cyclables l'hiver. J'ai pas le goût de répondre non, là. Tu sais, de même tout seul, oui, ben,
mais à quel frais, dans quelles circonstances, au dépend de quoi? Il faut l'information complète.
La question qui manque, ces pistes-là, les utilisez-vous? Ce chiffre-là n'existe pas et c'est la clé.
Oui, parce qu'à 52 %, c'est un peu la moitié de la population de Québec font du vélo sur les pistes cyclables l'hiver, là.
C'est impossible. Non. Donc il y a des. Je pense que les gens sont pour la bonne volonté et les bonnes choses en général. Ça, c'est une question qui est facile, je trouve, de répondre oui. Mais il faudrait pousser le raisonnement plus loin. Puis moi, je trouve qu'il manque des questions dans le sondage. Et une des questions clés, c'est est-ce que vous utilisez les pistes cyclables l'hiver?
On est rendu à combien de kilomètres de pistes cyclables déneigées l'hiver?
Combien?
Moi, j'aurais dit une cinquantaine.
Ouais, c'est
Pascal,
plus que ça, hein?
T'aurais dit quoi?
Mais je serais même pas allé à 50.
Tu serais pas allé à 50?
J'aurais dit probablement de 25 et 30, là,
OK.
En n'ayant aucune connaissance, là.
136 kilomètres.
C'est beaucoup.
Pour la présente saison.
Est-ce qu'on a des chiffres sur l'utilisation?
Ben, c'est des chiffres qui sont biaisés, là. C'est vraiment des chiffres qui sont biaisés. Puis, ayons des yeux, là, regardons sur les pistes cyclables là, dans les derniers jours. Puis même au mois de décembre, où c'était quand même doux là, à un certain moment au mois de décembre, je passe régulièrement sur Pierre-Bertrand, qui est un artère qui est vraiment beaucoup achalandé. Il y a une belle piste cyclable qui est au centre.
Dans le milieu, oui.
J'aime ça aller marcher là, moi. Puis l'hiver, il y a 2-3 bicycles à pédale par jour.
Tu sais, je comprends qu'on veut changer des habitudes, puis je comprends qu'on veut aller plus vite peut-être que le vent coureur général, mais est-ce que vous avez vu autour de vous autres des changements radicaux d'habitudes? Tu sais, quand on dit qu'il y a un certain nombre de voitures qui n'existent plus dans la circulation l'hiver parce qu'on déneige les pistes cyclables, le sentez-vous? Le voyez-vous? Tu sais, c'est beau d'avancer des chiffres, puis moi, ces chiffres-là, bien honnêtement, je les ai pas vus. Ça m'intrigue énormément. Et si on réussit à faire en sorte que quelques-uns empruntent les voies cyclables, bravo! Mais moi, j'ai l'impression que souvent, c'est le même public. Le public qui prend le RTC, le public qui marche, le public qui se tient en forme, puis c'est parfait! Mais est-ce qu'on va vraiment sortir des gens de leur voiture et sortir des gens du trafic pour les asseoir sur un vélo à moins 25 l'hiver? Je pense pas.
Pour les citoyens de Val-Bélair, là, ce qu'on voit sur les pistes cyclables, bien honnêtement, c'est pas un préjugé, là, c'est ce que je vois, des quatre roues, des skidoo, puis des gens comme moi qui vont promener le chien.
Ouais. C'est ça qu'on devrait faire. C'est plus d'orienter vers le skidoo l'hiver, de prendre ces pistes-là pour les motoneiges. Le monde va avoir du fun à aller à job avec le gros soute qui sente l'essence.
Toi, ça paraît que tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Écoute, je veux dire, je travaille à Cajosport, le monde arrivait en skidoo,
oui,
je capotais.
Je suis allé,
mais ils sont pas moins chauds pour autant. Là. C'est aussi dangereux.
Je suis allé à Plessisville pour un tournoi de hockey en fin de semaine. Puis je suis allé faire un petit détour à la microbrasserie Jackalope. C'est Moses de Belleplace. Oh. J'étais le seul char. C'était plein en dedans. J'étais le seul char.
En passant, ils font des contrôles là, avec tout, le breuvage maintenant. Là.
Toutes des skidous. Toutes des skidous. Je suis rentré
hey,
là.
Tu te fais couper par des skidous sur la route.
Ben oui, ben écoute.
Là, hey, c'est le free for all.
La vie, c'est skidou, là. À Val-Bélair, là, vous le savez. Là.
Donne-y du choke. OK, bye.
Allez au Lady Marianne en skidou.
Oui.
Ça serait malade.
Ben.
Ouais, t'étais gelé, tu t'es réchauffé.
T'as se réchauffé. OK, courte pause. Merci, Denis.
Hey, merci à vous autres.
Après la pause, on a le plaisir de jaser avec Frédéric Bérard, qu'on entendait dans le temps, ben, en fait, l'année passée, sur les ondes de Boulevard 101, qui est un docteur en droit, avocat et auteur. Lui s'est posé la question, est-ce que Trump pourrait annexer le Canada facilement, ou est-ce que...
En termes de droit, là?
Exact.
Est-ce que c'est possible, ça, de l'égalité de la chose?
Son papier est disponible sur Nouveau, mais on va en faire un résumé tout de suite après la pause. Merci d'être là. S'il y a quoi que ce soit, les amis, 88 971 101, 88 971 101, on revient. Rage against the